Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier.
Mais pas pour le sien.
Qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut Théo, pour l'émission que je redoutais le plus de l'année. Il va falloir parler d'un moment de la carrière de Gainsbourg qui ne me plaît guère.
Ça va bien se passer.
Allons-y.
Vous le savez, c'est la dernière semaine du mois et aujourd'hui c'est donc jour de saga. On poursuit notre saga Gainsbourg en ta compagnie Gauthier. Allez, courage mon vieux, plus que 3 épisodes. Ouais. Oui Gauthier, plus de 3.
Mais les deux prochains seront moins douloureux. Là, c'est vraiment celui-là, la deuxième partie même de celui-là est celui qui polarise le plus de difficultés pour moi, mais allons-y.
C'est vraiment la partie de la carrière de Gainsbourg qui te plaît, qu'on va aborder à partir de maintenant. Je suis vraiment ravi de t'avoir infligé ça. Le mois dernier, nous vous avions raconté la poursuite de cette carrière sinusoïdale, justement, entre le succès de l'histoire de Melody Nelson, son premier concept album et la descente aux enfers de la décadence, et de Rock Around the Bunker également, en passant par une petite crise cardiaque, toujours bien rassurante sur l'état de santé du pauvre Serge.
Et une histoire de paix aussi, on avait fait vue de l'extérieur.
Bien sûr, ouais, les gazogrammes de Yevgeny Sokolov. Dans l'émission de ce jour, on va avoir le plaisir, du moins moi, de vous parler d'un autre concept album de Serge Gainsbourg, L'homme à la tête de chou. Et pour le plus grand plaisir de Gauthier, on va également découvrir les premiers enregistrements reggae de Gainsbourg. Alors je vous préviens, il y en a un qui risque de ronchonner un petit peu, vous l'avez deviné, il se trouve à mes côtés. Et on terminera, les amis, j'insiste très fortement sur ce point dès le début de l'émission, on terminera cette émission en s'écoutant un morceau qui est à mes yeux le plus beau de Gainsbourg, Variation sur Marilou. Je vous propose de débuter l'émission par un petit tube écrit par ce dernier, justement, pour Jane Birkin, un tube qui est sorti en 78, on s'écoute Ex-Fan des 60s.
Petite baby doll, comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows? Birds, the doors, these animals, the moon, the blues. Separé McCartney, George Harrison, A Ringo Starr, A John Lennon.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, c'est jour de saga, les amis, et on poursuit donc comme promis l'histoire de Serge Gainsbourg. Gauthier, on revient en 76, année de sortie de L'homme à la tête de chou, et même si Gainsbourg est au sommet de son art, eh bien, il a toujours une relation un petit peu difficile avec son public.
Ouais, j'ai l'impression que ça sera le leitmotiv un peu de cette émission. Effectivement,
bah,
après
de sa vie, hein.
Ouais, après Melody Nelson notamment, mais aussi d'une certaine façon Rock Around the Bunker et un peu vu de l'extérieur qui passe son meilleur album, il est un peu au sommet de sa créativité, même quand il compose pour les autres, on entend toujours Jane en fond. Le public.
Pardon, je te coupe, un sacré tube quand même.
Ah, oui, dire, oui, non, mais il continue à composer des choses extraordinaires. Mm. Le public ne le suit pas, un peu agacé probablement par ses frasques et aussi par ce couple Jane Birkin-Serge Gainsbourg qui à l'époque monopolise l'espace public. Ses albums ne se vendent pas, ceux de Jane Birkin pas plus. Donc un Serge qui est toujours avec un rapport assez complexe effectivement à son public.
On aime détester les idoles, hein, en l'espèce.
Un peu,
Cela dit, Gainsbourg continue à écrire pour pour les autres, notamment un petit débutant, le dénommé Alain Chamfort.
Oui, mais qui démontre aussi un peu justement la situation de Gainsbourg, parce que quand le jeune Chamfort va vouloir se lancer, il va vouloir rencontrer Serge Gainsbourg
pour que
Gainsbourg lui compose des chansons comme il en a fait pour d'autres.
Alors que le public le déteste.
Ouais, et plein de gens même lui déconseilleront d'aller voir Gainsbourg en disant qu'il est has-been. Alors la collaboration se passera bien entre les deux, et Gainsbourg lui pondra notamment plus tard les paroles du tubesque Manu Reva, Koubiak dédicace, hein, qui nous a fait rêver sur cette chanson en 79. Pour vous dire à quel point c'est même presque encore une fois la dèche financière, Serge Gainsbourg accepte de filmer des pubs pour Woolit, la marque de lessive. Vous avez une interview de Seguela, je crois, sur le publicitaire sur YouTube à propos de cet événement assez étonnant de la vie de Gainsbourg.
Et comme si la vie n'avait pas été assez dure pour Gainsbourg, elle continue d'être parsemée d'anecdotes toutes plus glauques les unes que les autres. Gauthier, est-ce que tu peux nous faire un petit point SPA en hommage à Brigitte Bardot ?
Oui, effectivement, j'ai pas pu m'en empêcher en lisant le livre de Gilles Verlan qu'on cite régulièrement dans cette émission, la biographie de Gainsbourg, parce que l'histoire est folle. Je cite Gilles Verlan directement, c'est plus simple. Et puis il y a cet épisode dramatique en juillet 78, la mort prématurée de sa chienne Nana, cadeau d'anniversaire de Jane 5 ans plus tôt. Jane l'avait amenée chez le vétérinaire pour un check-up, question de régler quelques petits problèmes de diabète. Le lendemain, coup de fil, est-ce qu'on peut venir la chercher ? Réponse du praticien ignoble, oui, si vous avez un sac poubelle, un frigidaire. Donc la grande classe. Et c'est pas fini pour Serge, puisque pour essayer de le consoler, Jane Birkin lui offrera un petit chien complètement con qui sautera du balcon et se suicidera sur le coup. Le pauvre Serge aura quand même des difficultés avec les animaux. Ça n'empêchera pas qu'il commencera à l'époque à composer des petits bijoux. Théo, tu voulais parler de l'homme à la tête de chou. Je commence déjà à te le teaser légèrement avec Marie-Lou sous la neige.
Marie-Lou repose sous la neige, et je me dis, et je me redis, de tous ces dessins d'enfants que neige put préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une main.
L'a dit.
Tu chantes aussi bien que Gainsbourg.
Non, pas douter.
Pourtant, il chante pas très bien.
Il parle, il chante pas, il parle, Gainsbourg. Voilà un petit extrait donc de la triste fin de Marie-Lou, le personnage central de l'album L'homme à la tête de chou, qui finira donc le crâne fracassé par un extincteur et disparaîtra sous la neige de ce dernier. Gauthier, parle-nous un petit peu de l'album.
Oui, parce que Serge Gainsbourg donc, va composer cet album dont Théo, tu veux qu'on parle tellement.
Oui.
C'est peut-être ce qu'on pourrait considérer comme le dernier grand album créatif de Serge Gainsbourg, tant musicalement que dans le concept, etc. Et citons Serge pour qu'il explique un peu qu'est-ce qui se passe. J'ai croisé l'homme à la tête de chou dans la vitrine d'une galerie d'art contemporain. 15 fois, je suis revenu sur mes pas, puis sous hypnose, j'ai poussé la porte, payé cash et je l'ai fait livrer à mon domicile. Au début, il m'a fait la gueule, ensuite, il s'est dégelé, m'a raconté son histoire. Journaliste à scandale, tombé amoureux d'une petite shampooineuse assez chou pour le tromper avec des rockers, il la tue à coups d'extincteur, sombre peu à peu dans la folie et perd la tête qui devient chou. Cette shampooineuse, c'est Marie-Lou, et ce que vous venez d'entendre, c'est bien évidemment le pitch de cet album, qui est un concept album aussi autour de l'histoire de Marie-Lou et de l'amour du compositeur pour Marie-Lou.
Est-ce qu'on peut savoir d'où vient cette sculpture, Gauthier ?
Ah, tout le monde la connaît, on la retrouve sur la pochette de l'album, hein, bien évidemment. C'est une sculpture de Claude Lalanne, l'épouse de l'artiste François-Xavier Lalanne. On les appelait les Lalanne, d'ailleurs. Qui va être faite à l'époque, peu de temps, justement. Je crois qu'elle a fait, Serge l'achète relativement rapidement. Et qui va inspirer donc la composition de ce nouvel album qui sera enregistré en août 76, à nouveau à Londres. Décidément, Serge aime aller s'inspirer chez les Anglais, et cet album, c'est L'homme à la tête de chou. Je te propose d'écouter la chanson éponyme.
Je suis l'homme à tête de chou.
Marilou, je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break.
L'homme à la tête de chou, la chanson ouvrant de façon très théâtrale l'arrivée justement de l'homme à la tête de chou dans le magasin ou dans
chez Max, coiffeur pour homme.
Chez Max, coiffeur pour homme ou Officie, cette dénommée Marilou, shampooineuse.
Ouais. Et cet album Gauthier, je crois que la critique lui a réservé un accueil plutôt bienveillant. Pourquoi, selon toi?
Bien évidemment pour l'incroyable inventivité et l'incroyable concept qu'est cet album, parce que là vous l'entendez avec l'entrée, mais vraiment c'est quasiment théâtral.
Faut l'écouter en intégralité.
C'est chaque chanson parle, c'est comme une pièce de théâtre jouée en instrument, quoi. Mais aussi pour une autre apparition, c'est le talk over. Et alors le talk over, laissons là encore Gainsbourg en parler. Je fais ce qu'on appelle du talk over parce qu'il y a des mots d'une telle sophistication dont la prosodie, vous irez chercher sur le Larousse ce que c'est, que l'on ne peut pas mettre en mélodie. Vous ne pouvez pas chanter l'un à son trou d'obus, l'autre à son trou de balle. Ce n'est pas possible. Il faut le lire. C'est un très bel
exemple.
Il faut le dire, pardon. C'est un très bel exemple. D'ailleurs, on a presque l'impression d'entendre parler Céline de la littérature où il s'est expliqué aussi que il devait y avoir une certaine façon d'écrire pour parler. Et bien Serge Gainsbourg, lui, dit qu'il y a certaines phrases qu'on ne peut pas chanter, il faut les dire.
Alors, il va falloir que tu me développes un petit peu tout ça, parce que le talk-over, je dois avouer que je navigue un petit peu à vue, Gauthier.
Oui, et je tiens à remercier infiniment Gilles Verland qui a fait ma culture là, en la matière. Je ne savais absolument pas cette anecdote. Le talk-over, c'est bien plus que Serge Gainsbourg qui se contente à parler dans l'homme à la tête de chou. En fait, ça vient de Jamaïque, on en reparlera dans cette émission de la Jamaïque. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en Jamaïque, avec le reggae naissant, on enregistrait toujours des faces A et des faces B, et les faces B, en fait, étaient souvent les instrus de la face A, donc on faisait la chanson avec les paroles et tout, et en face B on enregistrait simplement l'instru, mais on nourrissait l'instru avec beaucoup d'artifice entre guillemets, et cet instru servait notamment au DJ quand il passait de la musique dans les soirées à parler dessus, tu sais, genre ambiance fête foraine, je te mets du son et je parle. Alors il y avait l'idée de parler pour inviter à la danse, mais aussi parler de tout, de rien, parfois il parlait de politique, et cette tradition de parler sur de la musique va arriver après aux États-Unis et donnera, selon Gilles Verland, mais je veux bien le croire, bah le rap, 10 ans plus tard.
Ne pas chanter, pardon, mais parler.
Mais ça vient d'une tradition de face B du reggae jamaïcain, quoi, ce que je ne savais absolument pas.
Et on est là pour apprendre, Gauthier.
Oui, et puis on peut bien reconnaître de temps en temps une vertu au reggae. Je dis bien de temps en temps.
Qu'est-ce que ça lui fait mal de dire ça. Et si la critique, Gauthier, est unanime pour dire que c'est un excellent cru, le public, comme à l'accoutumée, avec Serge Gainsbourg, mettra un petit peu de temps à réaliser la qualité de cet album.
Oui, toujours ce rapport éminemment complexe de Gainsbourg à son public. Peut-être parce que le garçon avait de temps en temps 3 coups d'avance. Je pense à Melody Nelson et à l'homme à la tête de chou.
Et 3 coups dans le nez aussi.
Et 3 coups dans le nez et dans les poumons. 25 000 albums vendus, c'est un gadin total, bien évidemment. La gloire ne reviendra qu'un peu plus tard pour Serge Gainsbourg, la même année, voire l'année suivante, avec une chanson plus classique, on va dire, plus pop, plus tubesque. Cette chanson, vous la connaissez tous, alors que vous connaissez peut-être pas tous les chansons de l'homme à la tête de chou. C'est la chanson Sea, Sex and Sun.
J'avais oublié comme c'était bon, Gauthier. Sea, Sex and Sun, donc, qui n'apparaît sur aucun album, puisque ce titre est sorti uniquement en single. J'ai lu qu'il avait écrit ça en 10 minutes sur un coin de table. Comme quoi, quand il veut bosser, il est capable de coups de génie, le bougre. Tu nous en parles un peu, Gauthier ?
De la chanson Six Sessenson ou des suites ?
De ce que tu veux, parle-moi.
Bon, alors de la suite. Effectivement, l'homme à la tête de chou sort, marche moyennement bien, et donc Serge va se dire, bon ben quand même on continue. Et pour la suite, aucune idée, hormis peut-être une vision. Cette vision, c'est la pochette. Il veut utiliser une photo, je crois de lui d'ailleurs, prise par Lord Snowdon, qui est un grand photographe de l'époque, dans le désert de Nubie. Cette pochette finalement sera changée pour une autre photographie de Lord Snowdon qui a été prise en Égypte dans le tournage du film Mort sur le Nil auquel participe Jane Birkin, qualité d'actrice. Donc pour le prochain album, Serge n'a qu'une idée pour l'instant, c'est une pochette.
Une photo, ok. Ouais. Et il aborde un thème qu'il connaît malheureusement bien, Gauthier.
Oui, il a aussi l'idée de se dire que, un peu comme pour la tête de, l'homme à la tête de chou, un peu comme pour Melody Nelson, ou un peu aussi comme pour l'épée de vue de l'extérieur, ou Nazi Rock, Rock Around the Bunker, il a un thème aussi, en plus de cette pochette. Et là encore, je vais citer ce bon Serge. Le sujet de mon prochain album, c'est un homme qui est techniquement mort d'une crise cardiaque pendant quelques minutes. Et effectivement, tu le fais bien de rappeler, ouais. Théo, il avait failli y passer. Oui. Il y raconte ce qu'il a vu dans l'au-delà, et ce qu'il a vu, ce que les jeunes morts à 20 ans restent pour l'éternité morts comme jeunes, quoi, et que les vieux, eux, les vieux cons, restent des vieux cons. À la fin, on le ramène dans la vie en lui mettant un stimulateur cardiaque, or il y a un problème, il a 20 ans, il va se l'arracher, il a une obsession, il ne faut pas tomber dans le piège de l'électronique. Ça aussi, c'est l'idée de Serge Gainsbourg. À l'époque, on est en 70, les premiers pas de la musique électronique arrivent, et Serge Gainsbourg ne veut surtout pas tomber dans cette écuelle. Peut-être une erreur là, un manquement d'avant-gardisme de sa part, parce que force est de constater que l'électro aura de beaux jours devant lui.
Assurément. Et puisqu'il ne faut pas, Gauthier, tomber dans les pièges de l'électronique, c'est vers une autre musique qui va se tourner. Pour ton plus grand plaisir.
Oui, absolument. Alors, c'est son producteur de l'époque qui va avoir un peu l'idée de l'amener là-bas. C'est de se tourner vers un style de musique qui commence vraiment bien à marcher dans les années 70, fin 70. C'est bien évidemment le reggae. C'est un style en plus auquel il a déjà touché pendant L'Homme à la tête de chou, avec une chanson dont je te mets un extrait, Théo, pour ton plus grand plaisir et pas pour le mien. C'est la chanson Marilou Reggae.
Quand Marie-Lou danse reggae, ouvrir baguette et prodiguer, salutations distinguées de petits serpents katangais. Quand Marie-Lou danse reggae, sur Marie-Lou passer gay, beaucoup caresse endiguées, spermatozoïdes aguets. Quand Marie-Lou danse reggae, au bord climax faire le gay.
Il a déjà fait un peu de reggae sur L'Homme à la tête de chou, et son producteur va lui dire vas-y, fonce là-dedans.
Et on reconnaît toute sa poésie dans ses paroles. Et donc Gauthier, on quitte Paris et Londres pour enregistrer ce nouvel album. Gainsbourg file sur les terres natales du reggae, la Jamaïque. Tu nous racontes son enregistrement ?
Ouais, un contexte un peu étrange. Gainsbourg va arriver en studio, le petit blanc, dans cet environnement un peu black qu'est le reggae à l'époque, avec des ingénieurs du son, des musiciens qui sont jamaïcains, qui se foutent un peu de Serge Gainsbourg, qui sont là pour appliquer le principe qu'apparemment ils appliquaient à l'époque, et take the money and run, c'est-à-dire prends ta thune et casse-toi. Il y aura un léger malaise, et puis finalement Gainsbourg va s'installer au piano, va jouer quelques harmonies, les musiciens jamaïcains vont se trouver impressionnés, comme quoi on parle tous le même langage, celui de la musique, et puis l'un des musiciens va dire tiens, ça ressemble à une chanson que j'aime beaucoup, Je t'aime moi non plus. Serge Gainsbourg va lui dire It's me, la glace est rompue, on va pouvoir commencer à faire de la musique ensemble.
Et donc Gauthier, bien entendu, l'enregistrement d'un album de Serge Gainsbourg ne serait pas sans ces truculentes anecdotes qui les parsèment. T'as une petite citation à ce sujet.
Ouais, de Philippe Le Richomme, qui est justement son producteur de l'époque, qui va l'amener en Jamaïque. Ce soir-là, en dînant à l'hôtel avec Serge, lui lançait « Demain, tu chantes ». C'était le moment où il fallait mettre les voix sur la musique. Et il a répondu « Je sais », sous-entendu qu'il fallait commencer à écrire les chansons. Puis je l'ai raccompagné à sa chambre, qui était mitoyenne de la mienne, et j'ai vu à ce moment-là une chose que je n'oublierai jamais. Il a déposé sur son lit toute une série de feuilles blanches et correspondant à chacune des chansons du disque, et en haut de chaque papier, le titre de la chanson. Alors, comme cela s'imposait, je le laissais seul face à ces pages blanches et je me suis retiré dans sa chambre. Le lendemain, je suis allé frapper à sa porte. Il n'avait pas changé de place depuis la veille. Les feuilles étaient au même endroit sur le lit, mais complètement noircies d'écriture. Et il était bien entendu totalement épuisé, vidé. Alors, j'ai restructuré les chansons qui partaient dans tous les sens. Puis, à 11h du matin, nous sommes allés en studio. Il a chanté jusqu'à 2h du matin. Le disque était fait.
T'imagines ?
Ouais, mais c'était un peu un usage chez Serge Gainsbourg de d'écrire les chansons un peu à la dernière minute, ce qui rend d'ailleurs le type absolument incroyable, parce que même si j'ai un problème avec son reggae, ses textes sont toujours absolument hallucinants.
On est bien d'accord là-dessus. Et si Melody Nelson et L'Homme à la tête de chou n'ont pas connu le succès espéré, Gauthier, il n'en sera pas de même pour Aux Armes, etc.
Oui, puisque c'est le nom de cet album, et là, ça me fait vraiment mal, parce qu'effectivement, L'Homme à la tête de chou et Melody Nelson sont passés au travers, alors que cette saloperie d'album reggae va être disque d'or, puis de platine à un temps record. Il en vendra 1 million d'exemplaires, ce qui n'est absolument jamais arrivé à Serge Gainsbourg. Je vous rappelle que dans les premières émissions, on vous parlait d'albums qui étaient vendus à moins de 10 000 exemplaires, voire moins de 20 000 exemplaires.
Ouais, c'est fou.
C'est le premier succès commercial en tant qu'album pour Serge Gainsbourg.
Tu crois que c'est grâce au reggae ou
Alors c'est peut-être grâce au reggae parce que la musique est un peu dans l'air du temps. C'est grâce aussi à deux choses à mon avis. D'abord à la polémique que cet album va créer. Vous la connaissez, la reprise de la Marseillaise en façon reggae aux armes, etc. Justement,
ça,
voilà,
oui.
Et qui va créer un énorme tollé en France puisque des associations, notamment d'anciens parachutistes et tout, vont rendre compliquées certaines séances de dédicaces et un fameux concert à Strasbourg où Serge Gainsbourg finira seul sur scène à chanter devant un public de type qui veut l'ouvrir en deux. Donc effectivement cette espèce de d'odeur de soufre va peut-être probablement aider à la promotion de l'album. Et puis aussi peut-être que le contexte musical de l'époque a aidé, puisque je rappelle le hit parade de RTL de l'époque. On a Supertramp avec Logical Song, une bonne chanson, mais on a aussi Elton John avec Song for Guys, pas la meilleure, Village People avec In the Navy, les Bee Gees et Gloria Gaynor. Vous comprenez qu'on n'est pas dans les meilleures années de la pop.
C'est vrai, hein.
Ouais, on est dans les années de la pop bien pourrie. In the Navy.
Voilà. Les amis, il est déjà l'heure de se quitter. On va le faire en s'écoutant le plus longtemps possible, autant que Radio Présence nous l'accorde. Variation sur Marilou, hélas trop longue pour être diffusée dans son intégralité. Écoutez-la dans toutes ses versions.
Probablement,
celle de Gainsbourg.
Probablement la chanson la plus érotique de l'histoire de la chanson française.
Je sais pas.
Oh, si,
non, mais bon, une des plus belles. Écoutez la reprise par Bachung. Tout est sublime. Je vous rappelle les amis que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour notre prescription mensuelle. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier.
Salut Théo.
À lundi.
Son iris absinthe, tandis que Marilou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses Lévis. Je lis le vice et je pense à Carole. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marilou s'évertue à faire des volutes de sèches ointoles entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec son zip à entrebâiller ses Lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Baby Doll et je pense à Lewis Carroll. Regard absent et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la sono lançant accords de cartes et de quintes, tandis que Marilou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air.
lorsqu'en un songe absurde, Marilou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, mais son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace, un peu du bleu lavasse de sa paire de Lévis. Tandis qu'elle exhale un soupir au menthol, ma débile mentale, perdue en son exil physique et cérébral, joue avec le métal de son zip et l'atoll de corail apparaît. Elle s'y coca-colle un doigt qui en arrêt au bord de la corolle est pris près du calice, du vertige d'Alice de Lewis Carroll. Songes obscurs, Marilou se résorbe, que son coma absorbe en des rêves absurdes. Sa pupille s'absente et son iris absinthe, subrepticement se teinte de plaisirs en attente.